Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Entre le 1er janvier et le 10 décembre 2019, 142 femmes en France sont mortes, assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. En 2018, le nombre de féminicides s'élevait déjà à 121. Chaque année par ailleurs, 220 000 femmes sont victimes de violences physiques et ou sexuelles. Et parmi elles, 3 sur 4 déclarent avoir subi des faits de violence répétés et 8 sur 10 auraient également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Il est étonnant de constater qu'en Espagne, en 2018, la même année, on ne comptait que 47 féminicides. S'il n'y en avait qu'un, une seule femme tuée par son conjoint ou morte sous ses coups, bien sûr, on est d'accord, ce serait déjà trop. Mais il n'empêche que cette différence entre les deux pays interroge. Il faut dire que les Espagnols se sont saisis de cette tragédie depuis le début du siècle. Ils ont dépensé notamment 1 milliard d'euros sur 5 ans pour former les forces de l'ordre, les magistrats et les personnels soignants à recevoir les plaintes, à instruire les dossiers et à soigner les victimes. Chez nous, il a fallu attendre cette année pour qu'à la suite d'une période de concertation et de réflexion nommée Grenelle, le Premier ministre Édouard Philippe dévoile le 25 novembre un plan de lutte contre les violences conjugales financé à hauteur de 360 millions d'euros. Pour apporter notre modeste contribution à cette prise de conscience nationale qui fait suite à celles liées aux violences et aux agressions sexuelles sur les femmes, nous vous proposons donc de changer de point de vue et de regarder de l'autre côté, du côté des méchants. Qui sont les auteurs de ces violences? Y a-t-il des explications recevables à leurs gestes, des causes, des raisons? Ont-ils compris ce qu'ils ont fait? Sont-ils prêts à recommencer? Et que faire pour que cela ne se passe pas? C'est en gros le point de vue des bourreaux, une série en 6 épisodes sobrement intitulée « Des hommes violents ». Elle est proposée et racontée par Mathieu Palin et entièrement disponible en podcast sur la plupart des applis de podcast et notamment sur celle de Radio France qui est super. On en diffuse par les ondes tout de suite le premier épisode qui s'appelle « Victimes et coupables » où on fait connaissance avec le narrateur, sa mère et une jeune auditrice des Pieds sur Terre qui nous écrit un mail bouleversant et où on se demande pourquoi c'est pas pareil un homme qui frappe une femme et une femme qui frappe un homme.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
I'd like to propose one way to continue moving this revolution forward. Let's declare loud and clear, this is what I want. This is what I need. This is what I desire. This is how you can help me achieve pleasure.
Quand la vague MeToo a déferlé, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et que j'ai découvert l'existence d'Harvey Weinstein, ma première réaction n'a pas été de demander à mes deux petites sœurs de 29 et 23 ans si elles aussi avaient rencontré un poids. Je me suis tout simplement dit, tiens, il existe encore des types qui pèsent à ce point sur l'industrie du cinéma. En lisant sur Twitter, dans la presse, un peu partout, ces témoignages de femmes qui criaient « Ce monde ne nous convient pas », je me sentais pas concerné. Mais le mouvement a duré et je me suis dit « Merde, t'es en train de passer à côté d'un truc ». Alors j'ai acheté King Kong Theory, sans conviction. Et j'ai lu le récit que fait Virginie Despentes du viol dont elle a été victime. J'ai pris une première claque. Et après ça seulement, j'ai posé des questions. Des amis m'ont confié qu'elles avaient été agressées au couteau dans Paris. D'autres m'ont raconté qu'à force de se faire suivre, elles marchent avec leurs écouteurs, mais sans le son, pour rester sur le qui-vive. Ma copine m'a parlé de ces mecs qui lui donnent du « salope, je te baiserai bien, oh reviens là », ce genre de truc. La parole se libérait vraiment, je le voyais. Et puis un jour, au téléphone, j'ai osé demander à ma mère « Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Est-ce que toi aussi, tu pourrais dire Me Too ?»
Eh ben, quand j'étais plus jeune, j'étais babysitter pour une famille très aisée qui sortait assez souvent, qui faisait appel à mes services pour garder leurs enfants. Et quand ils rentraient tard, le père me raccompagnait chez mes parents, je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Et un soir, sur le trajet du retour, il m'a sauté dessus, il m'a embrassé de force, il a essayé d'abuser de moi, quoi. Et du coup, je me suis débattue, et puis finalement, pense qu'il a dû revenir à la raison, enfin je ne sais pas par quel miracle il a repris ses esprits et puis ça s'est arrêté là, mais ça aurait très bien pu beaucoup plus mal finir, quoi. J'étais complètement vulnérable à sa merci, je ne peux pas faire grand chose, quoi.
Et ça, tu l'as déjà dit ?
Non. Ça, c'est vrai que, curieusement, je me rends compte que j'avais gardé ça pour moi. J'en ai pas parlé du tout. Bon, avec mes parents, ça aurait pas été possible parce que ça aurait fait des scènes terribles. Et si ça se trouve, j'aurais été mise en cause, tu vois. Ça aurait très bien pu se retourner contre moi. Et après, c'est vrai que j'en ai jamais parlé.
C'est ce jour-là que MeToo est devenu concret. J'avais jamais imaginé que ma mère puisse être concernée. Pourtant, comme les autres, elle s'était sentie coupable, et comme les autres, elle avait choisi de se taire, d'encaisser. C'est à ce moment-là qu'au pied sur terre, on a reçu le mail de Cécile. Ça commençait comme ça. « J'ai malheureusement un sujet à vous soumettre. Ce n'est pas une banale affaire de violence conjugale, mais l'histoire de l'acidité d'un système politico-judiciaire. » Sur le moment, j'ai pas bien compris, mais plus bas, elle ajoutait « Mon histoire témoigne assez tristement qu'à l'heure où beaucoup d'hommes déclarent avoir peur de la chasse aux sorcières avec la vague MeToo, il reste encore pas mal de marge. »
Nos limites, en fait. Donc là, il m'a frappée, j'étais assise sur le lit.
Avant, c'était pas le genre d'histoire qui m'intéressait. J'ai même jamais écrit un seul article sur les droits des femmes, les viols, les féminicides. Mais là, j'avais envie d'en savoir plus. Je l'ai appelée, on s'est donné rendez-vous dans un café et elle m'a raconté son cauchemar. Tout a commencé quand elle a avoué à son mec qu'elle l'avait trompée.
Ça faisait un mois qu'on était dans cette ambiance assez merdique et... Le 2 avril, du coup, lui, il est allé travailler, il fait de la vidéo. Et en fait, du coup, c'est une journée où moi, j'étais dans la logique de me dire, OK, il faut faire en sorte que les choses s'arrangent. Donc, je me rappelle que j'avais acheté des fleurs. Lui est arrivé vers 20h. J'avais pas trop de nouvelles de lui pendant la journée. Et c'était un peu bizarre parce que c'est pas trop un mec qui faisait ça. Et en fait, il était complètement démonté. Enfin, il avait bu clairement avec un de ses potes. Il a commencé à me parler hyper mal devant son coloc aussi, puisqu'il habitait en coloc. Moi, je suis allée dans la chambre. Ensuite, il est arrivé dans la chambre. Et en fait, il a commencé à m'insulter. Donc là, il y a tout qui passait, les salopes, les putes, les tout, enfin tout quoi. Et moi, j'étais encore dans cette logique de me dire bon, il va m'insulter un peu et ça va lui passer et ça va s'arranger, etc. Et le truc en plus, c'est que le lendemain, j'avais 2 entretiens de prévus dans des agences médias, qui sont des bonnes agences médias. Enfin bon, bref, l'idée générale, c'était qu'il fallait que je me couche tôt, quoi. Donc j'essayais vachement de minimiser le conflit pour que ça se tasse et que tout se passe bien, sauf que c'était impossible et qu'au bout de 5 ou 10 minutes d'insultes en continu, j'ai pété les plombs, je l'ai poussé et je lui ai mis une gifle. Donc là c'était plus du tout rattrapable. Donc moi dès que je lui ai mis une gifle, j'ai complètement paniqué parce que je me suis dit ok, là j'ai fait un truc violent, c'est pas bien. Donc j'étais complètement terrorisée de ce que j'avais fait. Et pour lui c'était ok, c'est parti quoi. Nos limites en fait. Donc là il m'a frappée, j'étais assise sur le lit. Je me rappelle que je me suis cognée la tête. Au bout d'un moment je me suis retrouvée à terre. Il y avait des trucs qui tombaient sur moi. Je me rappelle qu'il mettait des claques énormes et qu'il me tapait la tête contre le mur en fait. Et il m'a mis un coup de poing. Au bout de 10 minutes, je suis allée chercher son coloc en lui disant bon bah Ben, il faut que tu retiennes Julien parce que il y a un truc qui va un peu trop loin. Et en fait, il a retenu Julien peut-être 3 minutes. Julien ensuite est revenu. Et ça a recontinué pendant 20 minutes, une alternance de je te frappe. Et genre j'étais par terre, genre il m'a traîné par les cheveux par terre. Et j'ai réussi à partir au bout de 45 minutes. Et en fait, dans les escaliers, il y a un de leurs voisins qui est flic qui m'a intercepté et qui m'a dit attends, viens, pose-toi 5 minutes. Donc je suis allée chez lui et en fait je commençais à voir que j'avais l'œil un peu bleu. Lui, son propos c'était de dire moi j'ai bossé beaucoup dans ce milieu là, des femmes battues, et en fait en gros là il faut que tu portes plainte parce qu'il l'a fait une fois, il va toujours recommencer, il faut que tu comprennes que là c'est fini entre vous et que tu y ressembles jamais quoi. Et ça faisait quand même beaucoup d'infos à encaisser. je commençais à réaliser le truc et puis je commençais à réaliser que j'allais être défigurée en fait parce que dès que je suis partie de chez lui, limite j'ai claqué la porte et 10 secondes plus tard j'avais un texto qui disait en gros je t'aime, pars pas, je suis désolée.
Cécile a 31 ans, comme moi, et comme son ex. Elle habite Paris, à environ 1 km de chez moi. Si ça se trouve, on a des connaissances en commun. Avant de la rencontrer, quand j'entendais les mots « violence conjugale », j'avais cette image qui venait d'office. Le quinca alcoolique et frustré, qui pète les plombs dans la cuisine pendant que les enfants tremblent sous leur couette. Je m'étais jamais dit que ça pouvait être un truc de jeune.
Ce qui se passe après, c'est que je devais aller porter plainte. Donc les premiers jours, je suis complètement KO, j'arrive pas à le faire. Et puis en fait, ma mère pose une journée et me dit « Ok, en fait, t'arriveras jamais à y aller toute seule, donc je vais y aller avec toi. » Donc là, je porte plainte, 2 jours après. Je me retrouve au commissariat du 15e avec des dames super chic. J'étais loin d'être la seule nana qui avait un cocard, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc qui est transclasse, quoi. Et donc, bref, je porte plainte, sachant que je minimise un peu ma plainte, parce que je me dis c'est vraiment super chaud pour lui, donc je parle pas de la soirée avec mes copines ou la déboulée pour tout casser. Je parle pas du fait qu'il a quand même marché sur mon visage. Je parle pas du fait qu'il m'a tiré par les cheveux au sol. Enfin, je... Et donc ensuite, la plainte s'est déposée et je le dis à Julien en fait. Julien commence à paniquer complètement et à avoir peur d'aller en prison. Et donc il me demande de retirer ma plainte. Donc voilà, j'appelle un des amis qu'on avait en commun et il me dit oui c'est vrai que quand même, c'est chaud pour lui, il risque d'avoir du sursis. Après s'il fait la moindre connerie, il va finir en tôle. Et donc en fait là, genre, je me dis mais... Enfin, mais si jamais il fait une connerie, enfin, je sais pas, l'idée c'est qu'il en fasse plus, non, en fait. Donc voilà, on en est là. Ensuite, gros blanc, on se parle plus pendant des mois. Et puis, je reçois un coup de fil d'une dame qui me dit qu'elle travaillait au commissariat du 19e et qui me dit que monsieur machin a déposé une plainte contre vous. Enfin, là, je retombe de ma chaise. Je vais voir cette dame qui, en fait, dans l'ascenseur où il y avait plein de monde, me parle comme si j'avais roué de coups Julien. J'ose pas lui dire, sur le coup je crois, mais je suis un peu en mode vous êtes sûr qu'on parle du bon dossier là, en fait moi je suis la victime. Donc on rentre dans son bureau, donc ambiance, des gens qui rentrent, qui font des blagues sur les Twix, machin, truc et tout, pendant que moi je suis en train de raconter comment je me suis fait casser la gueule, quoi. Et donc je sors de là, et le lendemain elle me rappelle pour me dire bon en fait il faudrait que vous fassiez une confrontation avec Julien parce que les versions divergent trop, sachant qu'effectivement elles divergeaient énormément puisque en fait Julien dit n'avoir mis aucun coup, il parle de violence involontaire, ce qui genre j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, et par contre il dit dans sa version que moi je me suis quasiment jetée sur lui pour lui arracher un œil, quoi, en gros. Et puis avec beaucoup d'allusions sur le fait que je suis complètement instable psychologiquement, mais tout ça dans un dossier complètement vide. De toute façon, il a déposé plainte au bout de 3 mois, donc moi dans mon dossier, ouais, il y avait des photos, j'avais un énorme cocard, j'avais des bosses, et oui, en fait j'étais allée voir les unités médico-judiciaires. Donc ça c'était les ITT physiques, c'était 5 jours, et psychologiques c'était genre 10 jours. Et là je me suis vraiment dit, en fait mon dossier, je sais pas, il a dû être géré par un stagiaire de 3e en stage d'observation. Enfin, je comprends pas ce qui s'est passé, en fait. Donc, on fait la confrontation. Donc là, Julien vient avec une avocate. Moi, j'avais pris... Enfin, au final, j'avais pris une avocate, mais qui, en fait, était pas terrible, quoi. Et comme c'est moi qui ai mis les 2 gifles et qui ai commencé les violences, en fait, je suis coupable exactement au même titre que lui. Enfin, donc j'encaisse ultra mal le coup, je suis complètement HS pendant 10 jours, mais je me dis encore, mais non, c'est pas possible. Le 8 janvier, du coup, j'avais rendez-vous avec cette dame, et donc je suis dans son bureau qui est recouvert de posters pour les harcèlements sexuels et les violences conjugales et tout ça, et en fait, cette dame finit par me dire... qu'en gros, bah, y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Et voulait que je vous dise quoi en premier. Donc je dis, allez-y, commencez par la bonne. Donc elle me dit, en fait, votre casier judiciaire, c'est une super bonne nouvelle pour vous. Votre casier judiciaire va rester vierge. Mais bon, vous êtes reconnu comme victime, mais aussi comme coupable. Donc du coup, vous devez faire un stage pour, je crois qu'ils appellent ça, ouais, responsabilité pour les violences conjugales. Donc en fait, là, je m'écroule complètement. Et elle me dit, mais vous êtes quand même... Enfin, ça m'inquiète, je vous trouve quand même très fragile. Je dis, non, mais en fait, le problème, c'est que... Enfin, là, c'est comme si on me faisait un deuxième cocard. C'est-à-dire que je vais me retrouver dans un stage avec des mecs qui tabassent leurs meufs.
Lui, il a pris quoi ?
La même chose que moi.
Pareil.
Ouais. Et donc en fait, ouais, d'ailleurs, je disais, oui, bon, est-ce que vous pouvez juste faire attention de ne pas nous mettre dans le même stage, je sais pas. Elle me dit, ah, mais oui, vous inquiétez pas, je connais bien mon travail. Et là, je me suis dit, bah, écoute, c'est cool, c'est rassurant, alors. J'ai eu peur un instant.
Je sais qu'une femme victime de violence se sent rarement à l'aise dans un commissariat. Mais que la juge mette sur le même plan une paire de claques et trois quarts d'heure de coups et blessures, je sais pas vous, mais moi, ça m'échappe. Le pire, c'est qu'elle n'était pas la seule à refuser d'entendre ce que disait Cécile.
Ma mère, elle a fini par lui envoyer un texto après cette histoire de stage, qui lui disait en gros qu'il m'avait à nouveau humiliée et maltraitée, et que elle lui a dit je n'aimerais pas être ta mère. C'est bête, mais moi, du coup, je me suis sentie un peu protégée par le fait qu'elle envoie ce texto-là. Parce qu'en réalité, moi, toutes les figures d'autorité m'ont dit « Mais de quoi tu te plains ?» Donc je ne parle pas du tout de mon père depuis tout à l'heure, de façon totalement délibérée. En fait, mon père est l'une des seules personnes qui m'avait conseillé de ne pas porter plainte.
Ouais.
Parce que ça arrive de faire des conneries. Comme s'il y avait une... un truc qui s'était creusé entre lui et moi, je sais même pas trop si ça en rend compte, mais où quelque part, lui, il prêche pour la paroisse des hommes, en fait.
Et ton père, il t'a vu défiguré ?
Ouais, mon père m'a vu défiguré, bah...
Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il dise « je vais lui péter la gueule » ?
Ah oui, mais ouais. En fait, je me suis jamais verbalisée comme ça, mais je pense que quelque part, j'aurais aimé que... Pas qu'il le fasse, mais qu'il le dise, ouais. Ou au moins sentir un truc comme ça. Enfin, au moins sentir que quelque part, genre, ça lui faisait du mal que ça me soit arrivé. Mais j'ai jamais senti ça.
Parce que tu... ta mère, elle avait déjà été frappée ?
Non, c'était pas un homme violent. Après, c'est un homme qui a des grandes colères. Tout peut y passer, en fait. Enfin, genre, les murs peuvent être cassés s'il faut, quoi. Donc, il y a quand même ce truc-là dans l'air. Ouais, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le fait que... Est-ce que toute cette histoire est un hasard total ou pas? Est-ce que les mêmes problèmes se reproduisent à l'infini de génération en génération tant qu'ils sont pas résolus, en fait? Je sais pas si mon cursus en psycho m'apportera ses réponses, mais...
Le stage, t'es censé le faire quand?
Je suis censée le faire le 23 février. Et donc voilà, en fait, je sais même pas si c'est mixte ou pas. Enfin, moi, mon angoisse, c'est de me retrouver avec des mecs qui ont fracassé leur copine, quoi. Enfin, ce qui est clairement ce qui va se passer. Et le truc, c'est que, bon, ma grand-mère, qui a 86 ans, me disait, mais non, mais ma chérie, tu vas expliquer au professeur que toi, t'es une victime. Il va voir tout de suite que c'est faux, etc. Si je vais direct voir le mec pour lui dire « Bonjour, en fait, moi, je suis une victime », il va me faire « Oui, bien sûr, comme tout le monde. » Et donc, en fait, je vais juste aller à ce truc-là et fermer ma gueule pendant une journée. Et voilà, quoi. Enfin, le symbole dans mon appart, c'est que depuis que j'ai reçu cette putain de lettre, je dois poser des étagères. Et en fait, j'arrive pas à poser des étagères et je pense que j'arriverai pas à les poser jusqu'au 23 février.
Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un texto. Cécile disait que son stage avait été reporté. Ça l'énervait. Elle aurait aimé passer à autre chose. Finalement, elle a été convoquée un samedi. Et on s'est revus le lendemain.
C'est ultra pénible parce que sur 22 personnes, il y avait deux filles. Un peu mécaniquement, je me suis assise à côté de l'autre fille. J'imagine que ça devait probablement être pour me protéger. Quelque part. En fait, j'entendais beaucoup de mecs parler des tromperies de leurs femmes. Donc, en fait, moi, j'ai pris le parti de me présenter immédiatement comme quelqu'un qui avait trompé son copain, en expliquant aussi que je considérais qu'on n'était pas en Afghanistan et que, genre, du coup, j'avais quand même un peu le droit de le faire si ça me chantait. Et ensuite, j'ai expliqué que, bah, que j'avais mis deux gifles pour me défendre et que par ailleurs, je m'étais fait casser la gueule, que j'avais eu 5 jours d'ITT et voilà, que j'étais là pour ces deux gifles-là. Mais en fait, le problème, c'est que mon discours, il sonnait beaucoup trop comme les discours des 21 autres personnes. En gros, hier, il y avait 22 victimes, quoi. J'ai entendu parler de petits coups de pied, j'ai entendu parler de petites croûtes avec du sang sur la tête, enfin, c'était insupportable. J'ai l'impression que pour la plupart, en fait, c'était une journée assez sympa. Il y en a même un qui est parti en disant qu'il avait fait des belles rencontres et que c'était une super journée. La plupart, en fait, se présentent en disant que soit ils savent pas pourquoi ils sont là, soit qu'en fait, tu comprends que dans la logique, il avait été poussé à bout. Bah, donc voilà. Bah oui, il lui a cassé la gueule, mais bon... en même temps, elle l'a trompé, en même temps, machin. Le problème de tout ça, c'est que moi, ça m'a complètement explosé le cerveau parce que je me suis dit, non mais en fait, moi aussi, je dis, j'ai mis deux gifles, j'ai mis que deux gifles. Le truc, c'est que je me dis, je dis, j'ai mis que deux gifles. Enfin, en fait, je suis comme eux, quoi. Et en fait, j'ai complètement retourné là. Ouais, en fait, moi, j'ai passé toute ma journée à me dire, mais en fait, est-ce que... j'ai mis deux gifles, c'est vrai que c'est une violence. Dans le récit que je m'en fais, dans ce qui s'est passé, en fait, je me suis défendue. Je sais pas, en fait. Et en fait, le truc, c'est que quand j'écoutais ces mecs, ce que j'entendais, c'était que des mecs qui disaient... dans leur tête, à eux, c'est des victimes, en fait. Genre, ils sont victimes de cette nana qui les a trompés, ils sont victimes de cette nana qui les empêche de boire des coups, et machin. Et donc, en fait, oui, bah oui, ils ont mis un coup, mais en fait, ils voulaient pas vraiment, mais... Et je me suis dit, mais je crois qu'en fait, je suis la seule qui ressent de la culpabilité ici. Genre, au final, dans cette journée, je suis la seule à me dire, ça se trouve, j'ai un problème de violence. Enfin, c'est ça, quoi. C'est... Je pense que j'arrive pas du tout à dealer avec le fait que la justice me dit, ta place, c'est de faire ce stage de responsabilisation contre la violence. Donc, en fait, je me dis, il doit y avoir un sens, et je suis en train de le chercher, mais comme il y en a pas, ça me rend complètement folle, en fait.
En la voyant pleurer dans mon salon, j'avais envie de lui dire de pas se rendre malade, qu'elle était juste tombée sur un sale type et une mauvaise juge. Mais est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce qu'elle avait juste manqué de chance?
Et le truc que je voyais, c'était vraiment des mecs qui voient pas le problème. En fait, il y a un mec qui a dit un truc, je sais pas, quelque part, ça a dû me toucher un peu, parce qu'il a pris la parole et il a commencé à dire, tout ce qui m'est arrivé, les problèmes, il parle de problèmes qu'il a eu avec sa femme. Les problèmes qu'il y a eu avec ma femme, ça s'est passé en juillet, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir. En fait, au bout d'un moment, j'ai été quand même mis devant les photos d'elle, où elle avait des bosses et du sang sur la tête. Donc j'ai été obligée de reconnaître qu'il s'était vraiment passé quelque chose, et j'étais obligée de me dire que y a un problème et de sortir de mon déni. Et donc en fait, mais même encore aujourd'hui, j'arrive pas trop à me dire que j'ai vraiment fait ça. C'était quand même un aveu de... un aveu de son déni, un aveu de « j'ai fait une connerie ». Mais immédiatement après, il y a un autre mec qui lui a dit « mais oui, mais c'est parce qu'elle t'a poussé à bout, mec ». Et lui, il était d'accord. C'est parce qu'elle l'a poussé à bout. Enfin oui, en fait, j'ai passé 8 heures avec ces mecs. Genre, moi, le truc que je redoutais le plus, c'était les pauses. C'était un peu le moment où, je sais pas, j'imagine, tu te fais des amis. Enfin, tu vois, ou même, potentiellement, pendant qu'on y est, j'aurais peut-être pu me trouver mon prochain mec. Enfin, tu vois, autant les rechercher directement à la source, quoi. Le truc, c'est que eux, forcément, ils étaient en mode... on est un peu tous dans la même galère. Un peu ce que le mec a dit à la fin, quoi. Genre, j'ai pu rencontrer des gens avec qui discuter. On a un peu les mêmes problèmes. C'était une journée sympa, quoi. En fait, il y avait un mec à côté de moi. Lui, pareil, il avait rien fait. Donc, ce qu'il racontait, c'était que... Il disait même pas ma femme, il disait bonne femme, je crois. En fait, on comprenait un peu qu'il avait dû rentrer après avoir picolé avec des potes à 4h du matin. Et que, en gros, cette connasse, elle veut même pas le laisser tranquille avec ses potes, quoi. Et que donc, du coup, j'ai quand même bien l'impression que l'histoire, c'était qu'il avait tabassé sa femme, enfin sa bonne femme, devant ses potes. Et puis, il enchaînait, en fait, sur le sujet de la fidélité, qui est un truc qui les a beaucoup travaillé quand même hier, en disant, non, mais de toute façon, les femmes jalouses, il n'y a rien de pire. Et donc l'animateur lui disait « Ah bon, mais parce que votre femme est jalouse, peut-être qu'elle a des raisons de l'être. » Et là, lui de répondre « Non, mais je l'ai jamais trompée, mais par contre, j'allais en club échangiste. » Et là, je me suis dit « On est dans ce niveau-là de contact avec le réel, quoi. C'est genre, il l'a pas trompée, mais il est allé en club échangiste. Donc de la même façon, il l'a pas frappée, mais il lui a juste fait un cocard, quoi. » Enfin, en fait, je crois que je me disais « probablement que... » Enfin, que c'est le pire endroit de tout Paris où je pouvais être. Voilà.
Cécile est rentrée chez elle et j'ai fait mes recherches. La violence réciproque, ça tenait pas la route. 96% des conjoints violents sont des hommes. Alors ok, parfois, les femmes se défendent. Pour sauver leur peau, elles rendent un coup. Mais cette histoire, c'est quand même l'opposition entre les dominés et les dominants. Faut être honnête, les hommes ont toujours eu le pouvoir. Alors je me suis demandé ce que devenaient les 21 mecs du stage. Est-ce qu'ils vivent encore avec leur femme? Est-ce qu'ils continuent de lui taper dessus? Est-ce qu'ils se sentent un peu coupables? Quelques semaines plus tard, j'ai appris que le ministère de la Justice organisait des stages bien plus longs que celui de Cécile, à Lyon, sous forme de groupe de parole.
D'accord, donc le groupe des paroles, on est deux animatrices. Donc il y a un groupe qui démarre à peu près tous les deux mois et demi, puisque c'est 10 séances de 2 heures. Et ce groupe est obligatoire pour un certain nombre de personnes condamnées pour des violences conjugales, avec des circonstances, des âges, etc. différents. C'est ce qui fait la richesse du groupe, mais quand même, les faits sont les mêmes.
Vu ce que m'en avait dit Cécile, j'avoue que j'y croyais moyennement. Mais j'avais envie de rencontrer ces hommes, de savoir ce qui se passe dans leur tête. Alors j'ai intégré le groupe.
On est tous là, on repart ? Qui commence ? Quel groupe commence ?
Eh ben, on disait que... Quand on se met en couple, des choses, des libertés, en moins.
Quand on est en couple, on a moins de liberté.
On a moins de liberté, ouais. Comme on parlait des sorties, des fois, et tout ça.
C'était Des hommes violents, premier épisode, Victimes et coupables, une série, un podcast de Mathieu Palin entièrement disponible en podcast, c'est-à-dire que vous pouvez écouter directement les 6 épisodes sur la plupart des applis de podcast et surtout sur celle de Radio France, une série réalisée et ô combien par Cécile Lafont. L'attachée d'émission, c'est Aurélie Marseille avec Abdel Rahim Chikroun. Merci pour cet épisode à Béatrice Asensio, Laurence Zobel, Émeric Sudreau, Elisabeth Fabry, Adèle Ibre, Justine Doublet, Cécile, Mélissa Plaza, Victoire Tuaillon, Charlotte Bien-Aimée, Adila Benedjaizou et Sophie Guignard.